Bien chers amis, auditeurs de Radio Maria France, je suis heureux de vous saluer depuis Medjugorje. Je suis le père Boris Baroun. Soyez bénis, donc frères et sœurs en Dieu, dans les saints noms de Jésus et de Marie. Nous nous retrouvons, comme à chaque fois, pour vous donner des nouvelles de Medjugorje, d'une part, et d'autre part, pour vous donner aussi un petit commentaire pastoral du dernier message reçu par la voyante Maria Pavlovitch Lunetti, en l'occurrence le 25 avril dernier, ça veut dire il y a 2 jours à peine. Alors, tout d'abord, quelques nouvelles intéressantes. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de confessions pour la fête de Pâques. Il y avait des pèlerins venus du Mexique, de Pologne et d'Ukraine majoritairement, peut-être quelques individuels aussi venant d'autres pays. En tout cas, la France n'était pas représentée. Elle devrait bientôt permettre les sorties du territoire. En tout cas, fin mai, des pèlerins sont prévus depuis la France. À l'occasion de la fête de Pâques, tout le monde, parmi les officiels, a donné les vœux, que ce soit Mgr Hauser depuis la Pologne, où il se trouve, que ce soit le provincial des franciscains d'Herzégovine, le père Milenko Štek, ou bien le curé de la paroisse de Medjugorje, le père Marinko, qui a souhaité de joyeuses Pâques à tous, aux paroissiens, aux pèlerins présents, à tous les fidèles. Il a dit en substance ceci: au printemps, quand tout dans la nature se réveille, quand les pousses dans le sol et les tiges reprennent vie, nous célébrons la fête de Pâques. Qu'est-ce que Pâques et quelle en est la signification concrète pour notre vie? Alors il disait, il y a des moments dans la vie où nous ne savons que dire, où des paroles n'apportent rien de précis, aucune clarté. C'est ce que nous pouvons éprouver, par exemple, devant une tombe. Il en fut de même pour Marie-Madeleine et les disciples lorsqu'ils se trouvèrent devant le tombeau dans lequel le corps de Jésus avait été déposé. La résurrection, c'est la lumière du Christ qui vient de l'au-delà et qui éclaire notre chemin terrestre et nos manques de clarté. Notre résurrection à nous commence lorsque nous commençons à reconnaître Dieu dans l'homme et lorsque nous choisissons d'aimer et de pardonner. Pour que nous puissions ressusciter, nous devons mourir à nos égoïsmes et à notre orgueil. Notre résurrection, c'est quand la charité, qui est prête à servir la vie, emporte en nous la victoire. Nous sommes de plus en plus conscients des conséquences néfastes de l'individualisme qui domine à notre époque, qui provoque un renfermement sur soi-même, dans notre propre petit coin tranquille, qui engendre froideur et indifférence envers les autres, manque d'égard et cécité devant la souffrance de l'autre. Lorsque la résurrection du Christ nous inonde alors, nous ne pouvons pas rester insensibles et passifs, mais nous allons à la rencontre des autres pour leur annoncer que Jésus est vivant et que l'amour est plus fort que le mal, qu'il est vainqueur du mal. Chers paroissiens de Medjugorje, chers pèlerins et toutes les personnes de bonne volonté, je vous souhaite une sainte heureuse fête de Pâques, père Marinko Šakota, curé de la paroisse de Medjugorje. Une dizaine de jours plus tard, le jeudi 15 avril, au sommet de la colline des apparitions, des pèlerins ont lâché un chapelet géant avec des grains constitués de ballons gonflés à l'hélium, donc lâchés dans le ciel de Medjugorje. Comme initiative intéressante, nous avons aussi la prière de consécration à Marie de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est vécue par le média Maria Vision, c'est-à-dire les jeunes membres, je dis jeunes parce qu'ils ont tous autour d'une vingtaine d'années, à part le directeur de Maria Vision, Medjugorje, qui est un peu plus âgé, mais il travaille avec une équipe de jeunes. Tous ces jeunes et le directeur ont décidé de se consacrer au cœur immaculé de Marie, selon la formule de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, et ils font leur prière de préparation pendant 33 jours, au terme desquels, donc, ils vont réciter leur consécration, c'est-à-dire se consacrer entièrement en tant qu'esclave à Marie, pour que Marie puisse les conduire pleinement donc à Jésus. Comme autre initiative, nous allons avoir les 40 jours qui précèdent l'anniversaire des apparitions, qui est le 40e cette année. Donc 40 jours de prière et de jeûne pour les 40 ans. Alors attention, il ne s'agit pas de jeûner 40 jours d'affilée. Ceci dit, à Medjugorje, on trouve des personnes qui le font. mais il s'agit que de pouvoir s'inscrire et prendre son tour de prière et de jeûne pendant les 40 jours, qui vont commencer le 8 mai, c'est-à-dire cette année pour la fête de Marie Médiatrice, et qui vont se terminer le 24 juin. Donc 40 jours de prière et de jeûne, grâce à une application en croate, eh bien, les amis croates vont s'inscrire et prier et jeûner. Chacun de nous avec sa famille et ses amis, en cliquant sur le jour de jeûne souhaité, s'implique donc dans une grande prière de remerciement à la Vierge Marie pour ses 40 années de présence. Alors n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous joindre à cette initiative. Vous pouvez donc décider dans votre cœur de prier et de jeûner en remerciement pour cette présence de la Vierge Marie pendant ces 40 ans au cours desquels elle nous éduque. Nous sommes donc à l'école de la Vierge Marie et nous arrivons donc au dernier message qu'elle a laissé le 25 avril dernier à la voyante Maria Pavlovitch Lunetti. Ce message dit ceci. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à témoigner de votre foi dans les couleurs du printemps, que ce soit une foi d'espérance et de courage, quelle que soit la situation, que votre foi ne chancelle pas, petits enfants, pas même en ce temps d'épreuve. Allez courageusement avec le Christ ressuscité vers le ciel qui est votre but. Je vous accompagne sur ce chemin de sainteté et je vous place tous dans mon cœur immaculé. Merci d'avoir répondu à mon appel. Voilà le dernier message où la Vierge Marie s'exprime aussi de manière un peu poétique, de témoigner notre foi dans les couleurs du printemps. Vous avez entendu que le Père Marinko, donc en ce temps de printemps, nous invitait à peu près la même chose. Et pareillement, la Vierge Marie nous parle de son cœur immaculé, ce qui rejoint tout à fait l'initiative de ces jeunes et de Maria Vision en général, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, la première chose que nous pouvons relever dans ce message, c'est que l'invitation qui est faite, elle nous dit « Aujourd'hui, je vous invite à témoigner de votre foi ». Nous nous souvenons que Jésus, juste avant son ascension, avait dit à ses apôtres « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut, et alors vous serez mes témoins. » Et ce témoignage, ce n'est pas quelque chose qui est réservé, entre guillemets, à des professionnels de la religion, que peuvent être les évêques, les prêtres, les missionnaires, les religieuses et les religieux et consacrés en tout genre. Non, il concerne absolument tout le monde. Tous les baptisés et confirmés, et on peut le dire, à tous les âges et dans tous les états de vie. C'est-à-dire que, comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin, et en même temps un instrument vivant de la mission de l'Église elle-même à la mesure du don du Christ. Alors, se pose la question, concrètement pour nous, est-ce que nous témoignons de notre foi, ou est-ce que nous avons peur de témoigner ? Et de fait, nous savons que beaucoup sont dans ce cas, et pour de multiples raisons. Il y en a beaucoup qui, tout simplement, sont trop affairés, un peu comme Marthe dans l'Évangile. Tu t'occupes de... et tu donnes la peine pour peu de choses. Trop accaparés par mille détails de notre vie quotidienne. Et du coup, eh bien, nous négligeons ce qui devrait être la priorité de tout disciple du Christ, c'est-à-dire de prier d'une part, et de témoigner, et celui qui est content dans tout ça, eh bien c'est Satan parce qu'il nous détourne ainsi de notre rôle. Même si nous faisons des choses qui sont bonnes, il nous faut choisir la meilleure part. Ceci dit, tous ne sont pas appelés à rendre le même témoignage. Il y a ceux qui témoignent par les actes, en s'engageant dans le service d'autrui et par amour, et il y a ceux qui sont plus invités à témoigner par la parole, mais tous, sans exception, doivent témoigner au moins par les actes. Il se peut que nous manquions à ce devoir de témoignage quelquefois par manque d'enthousiasme. Ça veut dire que notre amour pour Dieu et pour Jésus ressuscité s'est un peu refroidi, parce que nous avons comme cessé de chercher à faire sa volonté. Or, nous sommes appelés à progresser à grandir dans une meilleure connaissance de Jésus pour notre épanouissement en tant que chrétien. Sans ce développement spirituel, nous risquons de nous atrophier, et alors c'est notre désir de le faire connaître aux autres qui s'étiole petit à petit. Ce peut aussi que nous ayons peut-être peur d'être rejetés par les autres, si nous commençons à leur parler de Jésus. Alors oui, très certainement que des personnes refuseront de vous écouter, mais en même temps, il y en a d'autres qui seront très heureuses de le faire. Si vous leur dites que vous vous sentez concerné par leur vie et leur destinée finale, qu'est la vie éternelle, comme le rappelle la Vierge Marie dans le dernier message. Peut-être que nous manquons aussi un petit peu de foi. Foi en la force de la parole, foi aussi donc aux réalités dernières, je citais la vie éternelle, et dans cette vie éternelle, il faut aussi donc tenir compte de cette éternité sans Dieu qu'est l'enfer. Autrefois, les prédicateurs en parlaient souvent. Peut-être qu'ils accentuaient d'ailleurs la réalité de ce lieu, mais c'était dans un but pédagogique, c'était pas pour faire peur. Or, de nos jours, on peut dire que la peur de se retrouver en enfer s'est émoussée pour beaucoup. Ça, c'est comme si c'était des histoires pour des enfants, disent certains, même parmi les chrétiens. Alors, il faut éviter de s'appesantir sur cette idée. Or, je pense que trop d'entre nous ont comme perdu le sentiment d'urgence qu'avaient nos anciens à encourager les non-chrétiens à placer leur confiance en Jésus, à se convertir avant qu'il ne soit trop tard. Il se peut aussi que nous ayons peur d'être taxés d'intolérance ou de prosélytisme. Et pourtant, le message de l'Évangile dit que nul ne va vers Dieu le Père sans passer par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et cette peur fait que, nous avons comme perdu l'habitude de témoigner. Or, sa parole nous dit de ne pas avoir honte ni de lui, ni de ses paroles. Le pape François nous invite très souvent d'ailleurs à sortir de nos enclos pour offrir à tous la vie de Jésus. À l'offrir comme un cadeau, quoi. Alors voyez, frères et sœurs, le meilleur témoignage que nous pouvons faire, même s'il se peut qu'effectivement nous ayons toutes ces peurs que j'ai mentionnées, le meilleur témoignage, c'est celui de dire ce que Dieu a fait concrètement dans votre vie. Et ça peut se faire n'importe où. Là où on vous pose la question, là où vous sentez comme appelé à le faire. Et de même, je peux vous dire que personnellement, ma vie a basculé suite à un témoignage que j'ai entendu. Et ça s'est passé, vous savez où, ça s'est passé dans un bar, dans un pub très exactement, à Paris. J'avais un peu provoqué ce témoignage car j'étais déjà un peu en recherche. Mais si la personne avait refusé de témoigner, par peur ou par autre raison, je ne serais pas là aujourd'hui. Ma vie a basculé suite à un témoignage. Vous voyez comment c'est important de pouvoir donc donner les témoignages concrets de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et donc vous avez simplement à dire peut-être c'est ces deux points. C'est quelle sorte de vie vous aviez avant de rencontrer Jésus-Christ, avant d'être devenu croyant. Et après avoir choisi Jésus-Christ, non seulement le rencontrer mais l'avoir choisi dans son cœur, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et vous devenez alors semblable à un très très beau témoin qu'on trouve dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 9, l'aveugle de naissance. Lui, il témoigne simplement en disant objectivement ce que Dieu a fait dans sa vie. Il dit « Voilà ce qu'a fait l'homme qu'on appelle Jésus. Auparavant, j'étais aveugle et maintenant, je vois suite à ce qu'a fait ce Jésus. » Et puis, quand vous parlez ainsi de votre histoire personnelle, la plupart des gens vont apprécier votre désir de parler de votre vie ouvertement. Personne ne peut remettre en question votre expérience personnelle. Peut-être qu'ils n'en tiendront pas compte, mais c'est votre expérience et en tant que telle, cela mérite d'être entendu, écouté et le reste ensuite appartient à Dieu. Surtout que, dans un certain sens, votre histoire, notre histoire de conversion n'est jamais terminée parce que de nouveaux chapitres de notre vie sont en train de s'écrire tout le temps. Pour revenir à personnellement, donc comment j'ai vécu ma conversion, à l'époque, la vocation n'était pas du tout immédiate suite à ma conversion. Il a fallu qu'il se passe un peu de temps. Et ça veut dire que, quand je suis appelé à témoigner, je témoigne d'une part de la conversion dans le sens de je viens d'en parler, ce que concrètement Dieu a fait dans ma vie, comment est-ce qu'il m'a touché, et aussi après coup donc de ma vocation. Dieu continue d'écrire de nouveaux chapitres dans notre vie continuellement. Et puis une raison suffisante de témoigner, c'est tout simplement le plaisir de partager un trésor. Voilà, moi je suis extrêmement conscient d'avoir reçu un trésor et je ne m'y attendais pas. Je ne l'ai pas mérité en tout cas, mais c'est un don de Dieu. Et c'est un Dieu énorme, c'est pour ça qu'on peut l'appeler un trésor. C'est comme si on est émerveillé, allez on va dire un soir, par un coucher de soleil ou une nuit étoilée au-dessus d'un lac ou de la mer avec le reflet scintillant des étoiles, et qu'ensuite je puisse dire à un ami, vraiment ce coucher de soleil ou cette nuit étoilée était magnifique. J'ai été touché par sa beauté, et viens avec moi le voir à nouveau à demain soir ou un soir suivant. Il s'agit donc de témoigner avec émerveillement de la grandeur et de la beauté de notre Dieu. La Vierge le dit dans ce dernier message. Je vous invite à témoigner de votre foi dans les couleurs du printemps. Voilà, tout nous invite donc à remonter vers notre Dieu à partir de la création. Le printemps est arrivé, le soleil nous réchauffe. Le beau temps nous invite à sortir de nos maisons. Les oiseaux chantent, les pelouses vertes fleurissent. Le printemps, c'est la période de l'année donc où la vie renaît. Et oui, à Pâques également, la vie renaît, exactement comme la nature au printemps. Cette belle image du printemps qui fait suite à l'hiver nous sert donc de parallèle pour comprendre la résurrection de Jésus comme d'une vie nouvelle qui nous est offerte. C'est un cadeau, c'est un trésor. Jésus a vaincu la mort pour partager avec nous la vie, la vraie vie, la vie en Dieu. Comme au printemps, donc un temps nouveau est arrivé avec cette victoire de Jésus, et dans ce temps nouveau, la vie renaît florissante, pleine de vigueur et de joie. La joie d'être en communion avec notre Dieu de vie. Cette vie nouvelle est aussi souvent accompagnée d'une puissante dynamique qui fait exploser dans notre intérieur, voilà, cet enthousiasme revigorant d'un être nouveau. Notre humanité est renouvelée, exactement comme au printemps, un arbre qui auparavant avait ses branches séchées et c'est son feuillage qui commence à apparaître, il commence à devenir vert, à nouveau plein de vie. Des fleurs vont ensuite apparaître, symbole de beauté, de pureté. Regardez par exemple actuellement les cerisiers et les pruniers, tout blancs. Le blanc qui est symbole de pureté. Et quand nous reconnaissons notre péché et acceptons Jésus comme le Seigneur de nos vies, alors nous aussi nous devenons tout blancs, purs. Nous devenons des créatures nouvelles, entièrement renouvelées donc par notre Dieu. Et puis les autres couleurs des arbres, toutes ces couleurs que nous avons au printemps, des arbres et des fleurs, nous parle de la beauté de notre Dieu. Si la création est aussi belle, imaginez quelle beauté il y a en notre Créateur, lui qui est la source de tout ceci. C'est ce que dit un psaume, les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Du psaume 18-19. Et puis, j'ai envie de dire que toutes ces belles fleurs des arbres, elles sont appelées ensuite à donner de beaux fruits, image de notre vie spirituelle dans sa fécondité. Vous savez comment saint Paul parle du fruit de l'esprit en nous. Il dit dans l'épître aux Galates, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et ce fruit n'est pas celui de l'effort humain, donc ce n'est pas une qualité morale qui est première. Il s'agit avant tout de l'œuvre donc de l'Esprit-Saint dans le croyant qui produit en nous donc tout ce fruit. De même, saint Paul dira aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et d'ailleurs, porter de bons fruits, c'est le seul critère de discernement que nous laisse Jésus pour savoir si quelque chose, quelque initiative vient de Dieu. Car Jésus met en garde contre les faux prophètes et il dit « on les reconnaît, dit-il, à leurs fruits ». C'est aux fruits que l'on reconnaît les vrais prophètes des faux prophètes. Alors, voilà, il se peut que nous posions la question quelquefois, quels sont ces bons fruits? Le bon fruit, c'est d'abord évidemment de faire la volonté de notre Père Céleste, donc de ressembler à Jésus qui toute sa vie a fait la volonté de son père, dont il disait d'ailleurs que c'était sa nourriture. Et l'évangile selon saint Matthieu nous dit, attention, c'est pas nécessairement faire des choses extraordinaires, hein, ni des miracles, ni de chasser des esprits, ni des prophéties. Il s'agit tout simplement d'être disciple, c'est-à-dire obéir à notre maître Jésus-Christ. Et souvent dans la Bible, Israël est comparé donc à une vigne féconde. La fécondité, donner de beaux fruits, c'est ce qui se produit lorsqu'on est fidèle à Dieu. Mais dès qu'Israël s'éloigne de Dieu, qu'il est séduit par d'autres choses, la tentation d'une puissance terrestre, eh bien il devient stérile, incapable donc de produire ce vin qui réjouit le cœur de l'homme, comme le dit le psaume, ou comparable au figuier stérile, souvenez-vous, que Jésus avait maudit. Qui se passait pour ce figuier était symbolique pour dire ce qui se passait pour le temple au temps de Jésus. En tout cas, Dieu attend de nous du bon fruit et j'ai envie de dire, il n'est pas le seul. Beaucoup de personnes nous regardent en attendant de voir que nous puissions les aider, que notre foi les aide à abreuver leur soif intérieure, leur désir de rencontre de Dieu. Alors au temps de Jésus, malheureusement, le temple était devenu comme un obstacle, car trop de pureté rituelle, trop d'endurcissement de cœur, et qui faisait que, eh bien, voilà, Israël était devenu stérile, hein, comme ce figuier. En tout cas, il ne portait pas le fruit de miséricorde attendu. Peut-être que nous aussi, nous sommes attendus à ce niveau-là, à être donc des hommes miséricordieux comme le Père, pour pouvoir porter du fruit. Jésus enseigne comment il faut porter du fruit. Il dit toujours que c'est pour la gloire de notre Dieu. Dieu qui est le vigneron, c'est lui qui prend soin de la vigne. Et c'est pour lui qu'est le beau fruit de la vigne. Jésus en est le cep, c'est-à-dire qu'il est le pied de vigne qui reçoit de Dieu la vie et qui la communique aux autres. Les autres, c'est-à-dire nous, qui sommes les sarments, les branches, les tiges qui portent le fruit. Et ce fruit, donc, n'est pas d'abord le fruit de nous-mêmes, mais de la vie de Dieu que nous recevons donc par Jésus-Christ. Et porter du fruit devrait être pour nous source d'une grande joie. Jésus dit comment faire. Il nous dit simplement « Demeurez en moi. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà, tout est dit, il s'agit de demeurer en Jésus-Christ et de demeurer en sa parole. Un peu plus loin, il dira, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » L'apôtre Paul le dira un petit peu différemment, à sa façon, en souhaitant donc aux Colossiens la chose suivante, il leur dit que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Voilà, que cette parole donc demeure en nous tous, chers auditeurs, pour porter du fruit en son temps. Et la Vierge Marie nous parle de témoignage, elle parle aussi de foi, d'espérance et de courage. La foi est aussi confiance en Dieu. Elle ne nous offre pas des réponses toutes faites, mais elle nous donne en tout cas de ne pas être paralysés par la peur ou par le découragement. Elle nous engage, elle nous met en route, tout comme elle a mis en route Abraham autrefois. Voilà, difficile de parler de la foi sans citer ce géant de la foi, ce personnage de l'Ancien Testament qu'est Abraham, mais tous nous pouvons rencontrer des géants de la foi autour de nous. Cette expression a souvent été utilisée pour qualifier le pape Jean-Paul II. En tout cas, pour Abraham, en ayant confiance dans la parole qu'il a entendue, une parole qui va ensuite se changer aussi en promesse, eh bien, Abraham se met en marche. Il accepte de quitter sa terre, c'est-à-dire qu'il accepte de devenir un étranger. Abraham crut, sa foi s'ouvre à une espérance qui est en apparence déraisonnable, celle d'avoir un fils alors qu'il est âgé et que sa femme est stérile. Vous voyez, la foi est ici comme une capacité d'aller au-delà des raisonnements qui sont purement humains, c'est-à-dire de la sagesse et de la prudence de ce monde, au-delà de ce qui est normalement considéré comme du bon sens pour croire dans une parole qui nous vient de Dieu lui-même et qui nous fait donc croire aussi à l'impossible. C'est cette parole qui est adressée à Abraham, « Rien n'est impossible à Dieu ». C'est cette même parole qui sera redite par l'ange Gabriel à la Vierge Marie. « Et Abraham crut ». Et cela lui fut compté comme justice, nous dit l'Épître aux Romains. L'espérance ouvre donc de nouveaux horizons. Elle rend capable de rêver ce qui n'est même pas inimaginable, donc sur le plan humain. L'espérance fait cheminer vers un avenir qui semble incertain humainement, tout en marchant, donc avec confiance dans la lumière, car on s'appuie cette fois sur la parole que Dieu nous a donnée. « Ta parole est la lumière de mes pas, une lampe sur ma route », dit le psaume 118. Et nous voyons combien la vertu de l'espérance est belle, parce qu'elle nous donne beaucoup de force pour marcher dans la vie. Surtout que le signe que Dieu va donner à Abraham, c'est une demande de continuer à croire et à espérer. Il lui dit « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles ». Et il dit « Voilà comment sera ta postérité ». C'est encore une promesse, c'est encore quelque chose à attendre pour l'avenir. Dieu conduit Abraham en dehors de la tente et en réalité de ses visions étroites, il lui montre les étoiles. Et pour croire, il est nécessaire d'avoir donc les yeux de la foi. On pourrait dire que ce ne sont que des étoiles que tous pouvaient voir. Mais pour Abraham, elles doivent devenir le signe de la fidélité de Dieu et de la fidélité à la parole qu'il a donnée, c'est-à-dire sa promesse d'avoir une descendance et qui sera aussi nombreuse donc que les astres du ciel. La Vierge Marie continue en disant que votre foi ne chancelle pas, petits enfants, pas même en ce temps d'épreuve. Très intéressant. Nous vivons donc dans un temps d'épreuve. Et oui, nous savons combien cette pandémie laisse des traces et combien elle peut aussi provoquer de peur et d'incertitude chez les gens et malheureusement aussi chez certains croyants. Or, une épreuve, il faut s'en servir positivement parce que les épreuves nous apprennent beaucoup de choses. Elles nous apprennent premièrement à découvrir la présence de Dieu, la même où nous souffrons, la même où nous sommes éprouvés. Ce n'est que dans les circonstances difficiles, d'ailleurs, que nous apprenons à connaître que, effectivement, Dieu est là et que Dieu suffit à tout. Dieu est, cela suffit. Face à la mer Rouge, le peuple d'Israël devait d'abord se tenir tranquille. Il pouvait contempler ainsi la délivrance qu'il allait obtenir face au danger qui arrivait. Donc, il devait rester très calme. Et il a pu voir ainsi la victoire de notre Dieu. Ensuite, Dieu les a conduits dans le désert, endroit où toutes les ressources naturelles manquaient, afin de leur enseigner qu'il était à même, lui, de subvenir à tous leurs besoins. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Voilà ce que les épreuves nous apprennent. Elles nous apprennent donc à mieux croire en lui et aussi donc à fortifier notre foi. On peut même dire que les épreuves sont comme un sol fertile où va pouvoir germer la confiance, où elle va pouvoir ensuite se développer. Elles sont comme un stimulant pour développer notre confiance dans la fidélité et dans l'amour de Dieu. Et quelquefois, il faut donc passer par là. On peut prendre une image, hein. Regardez les oiseaux. Regardez par exemple un aigle, il ne peut apprendre à ses petits à voler qu'en les poussant hors du nid, en les jetant dans les airs, où le danger est énorme. Hein. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent que voler ou tomber. Et c'est à ce moment qu'ils apprennent, c'est-à-dire au cours de leur chute, qu'ils apprennent à connaître la force non encore développée qui se trouve dans leurs petites ailes. Tandis qu'ils les agitent d'abord dans une lutte désespérée, ils risquent de fait vraiment la mort, en les agitant, ils trouvent le secret d'une vie nouvelle. Ils apprennent à s'appuyer sur le vent. Ils apprennent petit à petit à voler et à trouver leur chemin dans le ciel. Le vent qui souffle où il veut, hein, disait Jésus donc à Nicodème, image de l'Esprit-Saint. Et de manière similaire, Dieu enseigne à ses enfants à déployer les ailes de la foi en les poussant hors de leur nid. Voilà, à travers donc les épreuves. Mais même là, il le fait avec douceur et avec sagesse, parce que Dieu adapte l'épreuve à nos faibles forces. Peut-être que plus tard, dans le but de nous affermir encore plus, il peut nous conduire plus loin. Mais en tout cas, saint Paul nous dit, dans la première épître aux Corinthiens, que Dieu est fidèle, qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et c'est ainsi que nous apprenons donc à mieux connaître Dieu et donc à mieux le prier et à l'aimer. Les épreuves nous contraignent à passer beaucoup de temps, on va dire, seul à seul avec Dieu, dans un cœur à cœur. C'est elles qui ont conduit le prophète Élie, qui devait fuir la colère de la reine Jézabel, à mieux découvrir qui est Dieu et ainsi mieux le prier et mieux l'aimer. Dieu n'était pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre ou le feu, comme le pensait au départ le prophète Élie. Dieu était dans la brise légère. Les épreuves, dernièrement, elles nous aident à avoir de la patience. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître quand il dit « Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Pierre se met ainsi à décrire les paradoxes de cette joie chrétienne. Tout d'abord, elle coexiste avec des épreuves de toutes sortes. Pourquoi s'en étonner ? Il dit « On affine bien l'or périssable au creuset du feu. La foi, qui est la grande richesse du chrétien, ne doit-elle pas elle aussi donc faire ses preuves et se libérer donc des impuretés, et ceci donc au feu de l'existence qui est éprouvée ?» Pierre atténue l'effet de ces épreuves en disant que l'affliction qu'elles produisent n'est que pour un peu de temps. Et quand arrivera la révélation ultime de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi qui a été dûment testée va se transformer en louange, en gloire, en honneur, pour Dieu tout d'abord, mais aussi pour le croyant qui aura tenu bon. Et voilà le paradoxe chrétien. La joie qui vient non pas du fait qu'on nie la souffrance, comme si elle était un vain mot, non pas donc malgré les souffrances, mais la foi au milieu des souffrances, car elles sont riches du salut de Dieu. Et plus loin, donc, l'apôtre Pierre en découvrira le sens en montrant qu'elle nous conforme au Christ serviteur. Ici, pour l'instant, il se contente de montrer le rapport de l'épreuve avec la révélation ultime du Christ. Ayant manifesté sa qualité, la foi apparaîtra lors de la manifestation de Jésus-Christ pour la louange, la gloire et l'honneur. Et puis, la Vierge Marie nous rappelle que nous devons aller courageusement avec le Christ ressuscité vers le ciel. « Qui est votre but ?» nous dit-elle. Le ciel, c'est le but de notre vie. Notre cité se trouve dans les cieux, disait saint Paul aux Philippiens. Il y a ce magnifique chant d'ailleurs de la céleste Jérusalem. Quand nous prions le Notre Père, nous disons Notre Père qui est aux cieux. Évidemment, notre cité se trouve donc dans les cieux puisque notre Père y est. Notre Père est toute la Trinité. Les chrétiens appartiennent donc à ce grand pays qu'est le ciel, et s'ils vivent la terre, c'est parce qu'ils s'y trouvent comme en voyage, en pèlerinage. Là, à nouveau, je m'appuie sur l'apôtre Pierre pour dire ceci. Dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 11, il nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre ». Comme des pèlerins, donc à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc nous sommes ici sur terre comme des pèlerins et des étrangers. Vous comprenez pourquoi j'ai tenu à vous parler tout à l'heure d'Abraham. Et ce que rajoute ici l'apôtre Pierre, c'est que, attention, donc il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Et ça veut dire donc, parmi tout ce que le monde nous propose, tout n'est pas nécessairement bon. Il va falloir apprendre donc à résister à ce qui est mauvais, qui peut se cacher sous des apparences bonnes. Regardez par exemple tous les totalitarismes. On a voulu montrer, faire croire aux gens qu'on allait vers une sorte de paradis terrestre où tous les gens seraient égaux, comme dans le communisme. Il faut donc résister à la pensée unique pour tous ceux et toutes celles qui vivent encore dans une dictature. Il faut aussi résister au conditionnement médiatique qui est imposé, cette fois, dans les pays dits libres, et même au conditionnement de la mode. Tout le monde le fait, ça semble être la règle pour nous imposer n'importe quoi. Et en face du conformisme général et des modes vestimentaires ou autres, surtout quand elles incitent à l'impureté, il nous faut garder notre liberté de pensée et d'action. Et je rappelle que la petite Jacinta de Fatima disait sur son lit d'hôpital, après avoir été visitée par la Sainte Vierge, donc peu avant sa mort, elle disait « Il viendra un temps où les modes offenseront beaucoup notre Seigneur ». Voilà, donc frères et sœurs, ayons de la pudeur, n'offensons pas le Seigneur notre Dieu, et pour cela, donc soyons, on va dire, ayons du discernement, faisons attention de ne pas nous vêtir n'importe comment. L'apôtre Paul le dit en disant « Soyez irréprochables et purs au sein d'une génération dévoyée et pervertie, dans un monde où vous brillez comme des foyers de lumière en lui présentant la parole de vie. » Dans un monde donc où règnent différentes formes de ténèbres, vous brillez comme des foyers de lumière. Forcément, si vous avez la foi, si vous vivez donc dans la charité, vous devenez lumière pour les autres. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi les inciter à désirer le ciel. Le ciel, donc notre vraie patrie, notre vrai but, nous dit la Vierge Marie. Et c'est au ciel que se trouve ce bonheur sans fin, cette vraie joie que nous pouvons goûter déjà maintenant donc sur terre et qui nous invite, donc parce que justement nous y avons goûté, nous avons goûté et vu comme est bon le Seigneur, comme dit le psaume 33, eh bien c'est ainsi que nous pouvons donc témoigner de cette joie, de cette beauté, de cette bonté de notre Dieu qui continuellement nous bénit alors même que nous restons des êtres faibles, fragiles et pécheurs. Mais sa miséricorde qui est toute puissante donc enlève nos péchés et nous donne en plus donc la joie du pardon. Alors, on va terminer par les paroles mêmes de l'apôtre Paul quand il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est le début de l'épître aux Éphésiens où saint Paul dit que Dieu nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, ainsi l'a voulu sa bonté. À la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de sa grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Frères et sœurs, chers auditeurs, que le Seigneur vous comble donc de ses bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous prenne en pitié. Qu'il tourne vers vous son visage et vous donne la paix. Chers amis auditeurs, que le Seigneur vous bénisse en abondance, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.